Chapitre 13. Monsieur Dampet et le monde. Que fait-il, cet homme fier, pendant que les jours s'écoulent? Pense-t-il à sa fille? Se demande-t-il où elle peut être allée? Croit-il qu'elle soit revenue à la maison, pour reprendre dans la triste demeure son ancienne existence? Il n'y a que lui qui puisse le dire. Il n'a jamais prononcé une seule fois son nom depuis. Les gens de la maison le craignent trop, pour oser aborder un sujet sur lequel il semble avoir pris la ferme résolution de garder le silence. Il fait taire immédiatement la seule personne qui ose le questionner. « Mon cher Paul, disait tout bas sa sœur, entrant dans la chambre, le jour du départ de Florence. Votre femme, cette parvenue! Ce que j'ai vaguement entendu dire serait-il vrai? Est-ce ainsi qu'elle vous remercie de votre dévouement sans borne pour elle? Vous qui, je ne le sais que trop, avez sacrifié vos propres parents à ses caprices et à sa fierté, pauvre frère !» Après cette allocution, empreinte d'un certain sentiment d'amertume, car elle n'a pas oublié qu'on ne l'a pas invitée au dîner le jour de la première soirée, Madame Chic use et abuse de son mouchoir de poche et tombe sur le sein de M. Dombey. Mais M. Dombey la relève froidement et la conduit vers une chaise. « Je vous remercie, Louisa, de cette marque d'affection, mais je désire que notre conversation roule sur tout autre sujet. Lorsque je me plaindrai de mon sort, Louisa, ou que je témoignerai le désir de recevoir des consolations, alors, si vous le voulez bien, vous pourrez me les offrir. » « Mon cher Paul, répliqua sa sœur, tenant son mouchoir sur sa figure et agitant sa tête, je connais votre courage et votre énergie. Je ne vous entretiendrai plus d'un sujet aussi pénible et aussi révoltant. » Et Madame Chic d'appuyer sur ces deux épithètes avec une indignation saisissante. « Mais je vous en prie, laissez-moi vous demander, bien que je craigne d'apprendre quelque chose qui me répugne et m'afflige, laissez-moi vous demander si la malheureuse Florence... » Louisa dit son frère d'un ton sombre, « Silence, pas un mot de plus sur ce sujet. » Madame Chic ne peut que secouer la tête, recourir à son mouchoir de poche et gémir sur ses Dombey dégénérés qui n'ont plus rien des Dombey. Mais elle ne sait si Florence a favorisé la fuite d'Edith, si elle l'a suivie, si elle a fait trop ou trop peu, enfin, elle n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Il continue, fidèle à ses principes, à garder pour lui seul ses pensées et ses sentiments et à n'en faire part à qui que ce soit. Il ne s'inquiète pas de sa fille. Il peut croire qu'elle est chez sa sœur ou qu'elle est encore dans la maison. Il peut songer à elle constamment ou n'y songer jamais. Rien chez lui ne laisse deviner ses pensées. Ce qui est bien certain, c'est qu'il ne croit pas l'avoir perdue. Il n'a aucun soupçon de la vérité. Il a vécu trop longtemps dans son orgueil inexpugnable, habitué à la voir, douce et bonne, mener au-dessous de lui son humble existence avec résignation, pour avoir aucune crainte à ce sujet. Il est ébranlé, c'est vrai, par la tempête, mais il n'est pas encore couché à terre. Les racines de son orgueil sont longues et profondes, et avec les années, elles se sont étendues et nourries de tout ce qui les entourait. L'arbre a été frappé par la cognée, mais non pas abattu. Quoi qu'il cache ses pensées intimes au monde extérieur qui, d'après lui, n'a d'autre but pour le moment que d'épier avec avidité ses moindres démarches, il ne peut cacher au regard ses yeux renfoncés, ses joues creuses, son front soucieux, son air triste et rêveur. Tout impénétrable qu'il est, il est bien changé pourtant. Et tout fier qu'il est, il faut bien qu'il soit cruellement humilié, car pourquoi serait-il ainsi changé? Le monde, que pense de lui le monde? De quel œil le voit-il? Que devine-t-il? Que dit-il? Tel est le démon cruel qui tourmente son âme. Le monde! Mais il est partout avec lui. Bien plus, il est partout où il n'est pas. Il sort avec lui au milieu de ses domestiques et reste encore à chuchoter derrière lui. C'est le monde qui le montre au doigt dans la rue, qui l'attend dans son bureau, qui le regarde par-dessus l'épaule des riches négociants. C'est lui qui le signale. C'est le monde qui parle de lui au milieu de la foule. Il le précède dans tous les lieux où il va, et quand il est sorti, c'est alors surtout que le monde s'occupe de lui. Quand il est enfermé dans sa chambre, le soir, le monde est dans sa maison. Il est dehors aussi, le monde. Il l'entend marcher dans la rue. Il le voit sur les cartes déployées devant lui, aller et venir sur les chemins de fer et sur les navires partout, si le monde est si occupé, si affairé, ce n'est que de lui seul qu'il s'agit. Ce n'est point là un fantôme de son imagination. D'autres gens pensent comme lui, témoin le cousin Phoenix qui vient de Baden-Baden, dans le but de lui parler. Témoin le major Backstock, qui accompagne le cousin Phoenix dans cette visite amicale. M. Dombey les reçoit avec sa dignité habituelle. Il se tient debout devant le feu dans son attitude favorite. Il s'imagine que le monde le regarde par leurs yeux, que le monde est là, derrière les tableaux, avec M. Pitt pour représentant, au haut de la bibliothèque, et sur la carte pendue au mur, il croit voir briller des yeux qui le regardent. « Le printemps est bien froid cette année, » dit M. Dombey, pour donner le change au monde. « Sacrebleu, monsieur, » dit le major, dans un élan d'ardente amitié, « Joseph Pastock n'est pas homme à dissimuler la vérité. Si vous voulez, Dombey, tenir vos amis à distance et leur battre froid, J.B. n'est pas l'homme qu'il vous faut. Joe est dur et solide, monsieur. Il est rude, monsieur. Il est rude, Joe. Son Altesse Royale, le feu Duc d'York, me fit l'honneur de me dire, à tort ou à raison, peu importe, s'il y a sous les armes un homme sous lequel je puisse compter pour aller droit au but, c'est Joe Backstock. » M. Dombey fait un signe d'approbation. « Maintenant, Dombey, dit le major, je suis un homme du monde. Notre ami Phoenix, si j'ose me permettre de le nommer ainsi, c'est un honneur pour moi, dit le cousin Phoenix. Notre ami Phoenix, reprit le major, en balançant la tête, est aussi un homme du monde. Vous, Dombey, vous êtes aussi un homme du monde. Eh bien, quand trois hommes du monde sont réunis et qu'ils sont amis, comme je le pense, et il se tourna encore du côté du cousin Phoenix, certainement, dit le cousin Phoenix, amis sincères encore. Et qu'ils sont amis, reprit le major, le vieux Joe est d'avis, Joe se trompe peut-être, il est d'avis que l'on peut facilement connaître l'opinion du monde sur n'importe quel sujet. Sans aucun doute, dit le cousin Phoenix, de fait, c'est une chose de la plus grande évidence. Je désire vivement, major, exprimer à mon ami Dombey toute ma surprise et tous mes regrets. Je ne puis concevoir comment ma charmante parente, si distinguée et si bien faite pour rendre un homme heureux, a pu oublier ce qu'elle devait à... de fait, ce qu'elle devait au monde, au point de se conduire d'une façon si singulière. Depuis ce malheureux événement, je suis dans un terrible abattement, et je disais hier soir à Long Saxby, qui a 6 pieds de haut, et que connaît sans doute mon ami Dombey, je disais que cet événement m'a mis sans dessus-dessous et que j'en suis malade. Vraiment, en présence d'une catastrophe aussi singulière, continua le cousin Phoenix, on ne peut s'empêcher de songer que la Providence joue un rôle dans les événements de la vie, car si ma pauvre tante eût vécu, ce qui vient de se passer eût été pour elle, pour une femme si comme il faut, un coup terrible. De fait, c'eût été le coup de la mort. Ainsi donc, Dombey, dit le major, qui reprit son discours avec une nouvelle énergie. « Mille pardons, » interrompit le cousin Phoenix, « encore un mot, s'il vous plaît. Mon ami Dombey me permettra de dire que si quelque chose pouvait ajouter à la cruelle douleur que j'éprouve à ce sujet, ce serait l'étonnement que cause au monde la conduite de ma charmante et distinguée parente. Je vous demande la permission de la nommer encore ainsi. Oui, sa conduite, en se compromettant avec une personne, de fait avec une personne qui a des dents d'une blancheur éblouissante, mais qui est d'un rang si inférieur à celui de son mari. Mais je dois aussi prier sérieusement mon ami Dombey de ne pas condamner ma charmante et distinguée parente avant d'avoir vérifié sa faute d'une manière positive, tout en lui donnant l'assurance que la famille dont je suis le représentant, et qui est presque éteinte maintenant, réflexion diablement triste pour un homme, que la famille, dis-je, ne fera aucune opposition et sera heureuse même de s'entendre avec lui sur les mesures qu'il désire prendre pour l'avenir et qui ne peuvent être qu'honorables. J'espère que mon ami Dombey ne doutera pas de mes intentions dans cette malheureuse affaire et de fait, je pense que je n'ai plus d'autres observations à faire à mon ami Dombey. » M. Dombey salue sans lever les yeux et garde le silence. « Maintenant, Dombey, dit le major, maintenant que notre ami Phoenix a établi tout ce qui a rapport à la dame avec une éloquence que le vieux Joe Bay n'a jamais entendu surpasser, « Non, morbleu, non, jamais !» s'écria le major, qui devient violet et saisit sa canne par le milieu. « J'oserais, au nom de notre amitié, Dombey, vous présentez la chose sous un autre jour. Monsieur, dit le major en toussant comme un cheval, le monde a des opinions qu'il faut satisfaire.
Je le sais, répond Monsieur Dombey.
Sans doute, vous le savez, monsieur, dit le major. Sacrebleu, monsieur, je sais parfaitement que vous le savez. Un homme de votre calibre ne peut pas ignorer de telles choses.
Je l'espère, répond Monsieur Dombey.
Dombey, dit le major, vous devinez le reste. Je me prononce, trop vite peut-être, mais voyez-vous, les Backstock se sont toujours ainsi prononcés. Ils n'ont jamais gagné grand-chose à cela, monsieur, mais c'est dans leur sang. Il faut brûler la cervelle à cet homme-là. Joe Bay est votre témoin. Il réclame ses droits d'amis, sacrebleu.
Major, dit M. Dombey, je vous remercie.
Je vous préviendrai quand l'heure sera venue.
Mais comme l'heure n'est pas venue, je me suis abstenu de vous parler.
Où est-il passé, Dombey? Dit le major après un moment, en le regardant.
Je l'ignore.
Vous n'avez aucun indice? Demanda le major.
Si.
Dombey, je suis heureux de l'apprendre, dit le major. Je vous en félicite.
Vous me pardonnerez, messieurs, vous me pardonnerez, n'est-ce pas, major? Répond Monsieur Dombey, si je n'entre pas en ce moment dans de plus grands détails.
Les indices que j'ai sont d'une nature singulière, et je les ai obtenus d'une manière singulière aussi. Peut-être se trouveront-ils faux, peut-être se trouveront-ils vrais. Je ne saurais le dire en ce moment, et j'arrêterai là mes explications.
Quoique cette réponse fût assez sèche auprès de l'enthousiasme chaleureux du major, celui-ci la reçut de fort bonne grâce, heureux de penser, disait-il, que le monde avait l'espérance d'une satisfaction pleine et entière.
Le cousin Phoenix est ensuite gratifié d'un gracieux salut par le mari de sa charmante et distinguée parente, et le cousin Phoenix et le major Backstock se retirent. Ils laissent le mari, toujours avec le monde, réfléchir à loisir sur ce qu'ils lui ont dit, sur ce que le monde pense de sa position, sur ce qu'il doit attendre, sur ce qu'il a le droit d'attendre de lui.
Mais qui donc est assis dans la lingerie, versant des larmes abondantes et parlant à voix basse à Madame Pipchin en levant les mains au ciel?
C'est une dame, la figure cachée sous un chapeau noir bien fermé, qui semble n'avoir pas été fait pour elle. C'est Miss Stokes qui a emprunté ce costume à sa servante et qui est venue en cachette de la place de la princesse pour renouer connaissance avec Madame Pipchin et se procurer ainsi les détails les plus exacts sur l'état de M. Dombey.
« Comment supporte-t-il ce coup affreux, ma chère bonne ?» demanda Miss Stokes.
« Bien, dit Madame Pipchin de sa voix aigre, il va aussi bien que d'habitude. »
« Oui, pour l'extérieur, dit Miss Stokes, mais à l'intérieur, quel rude coup !»
L'œil gris de Madame Pipchin se fixe sur Miss Stokes d'un air incertain, pendant qu'elle répond, avec trois pauses bien marquées,
« Ah, c'est possible. Je le suppose. »
« À vous dire ma façon de penser, Lucrèce, continue Madame Pipchin, qui appelle encore Miss Stokes de son petit nom, en souvenir des expériences orthopédiques qu'elle a faites sur elle quand Miss Stokes n'était qu'une malheureuse et chétive petite fille de quelques années à peine.
À vous dire ma façon de penser, Lucrèce, je crois que c'est un bon débarras. Je ne tiens pas pour ma part à toutes ces figures d'impudentes poupées. »
Oh oui, bien impudente en effet. Vous avez bien raison de le dire. Impudente est le mot, répond Miss Stokes. L'abandonner, lui, un homme d'un caractère si noble.
Et Miss Stokes est toute tremblante d'émotion.
Je ne sais s'il est noble, vraiment, dit Madame Pipchin en se frottant le nez avec impatience. Mais ce que je sais, c'est que nous devons supporter les épreuves que le ciel nous envoie.
Bah, j'en ai eu assez à supporter dans mon temps.
Voilà bien du bruit pour pas grand-chose, mon Dieu. Elle est partie. Eh bien, bon débarras. Personne ne tient à la voir revenir, j'imagine.
Dès les premiers mots d'allusion aux mines du Pérou, Miss Stokes se lève pour partir et Madame Pipchin sonne Tollinson pour la conduire jusqu'à la porte. Monsieur Tollinson, qui n'a pas vu Miss Stokes depuis des siècles, grimace un sourire et dit qu'il espère qu'elle se porte bien. « Si je ne vous ai pas reconnu du premier coup, ajoute-t-il, pardon, mademoiselle, la faute en est à votre chapeau. »
« Je sais bien, Tollinson. Je vous remercie, dit Miss Stokes. Je vous prie d'avoir la bonté, quand il vous arrivera de me voir ici, de n'y pas faire attention. Mes visites sont uniquement pour Madame Pipchin. »«
Très bien, mademoiselle, dit Tollinson. « Il se passe de bien tristes choses, Tollinson, » dit Miss Tox.
« Oh, bien triste, vraiment, mademoiselle, » répond Tollinson.
« J'espère, Tollinson, » dit Miss Tox, qui, depuis qu'elle donne des leçons à la famille Toodle, a pris un ton doctoral et l'habitude de profiter de toutes les occasions pour faire une classe. « J'espère que ce qui vient de se passer sera un avertissement pour vous, Tollinson. »«
Oh, certainement, mademoiselle. » « Je vous remercie, » dit Tollinson.
Il semblait rêver aux circonstances dans lesquelles cet avertissement pourrait avoir une certaine application à sa personne, quand l'aigre Madame Pipchin le fait sauter en l'air en criant « Qu'est-ce que vous faites donc là? Pourquoi ne conduisez-vous pas Madame à la porte ?» Et il se hâte de la conduire. En passant devant la chambre de M. Dombey, Miss Tox rentre dans les profondeurs de son chapeau noir et marche sur la pointe du pied. Il n'y a personne parmi les gens qui approchent M. Dombey, il n'y a personne dont les sentiments sympathiques égalent ceux que Miss Tox cache sous son chapeau noir et qu'elle essaye d'emporter chez elle en les dérobant à la clarté douteuse des réverbères. Mais Miss Tox ne fait pas partie du monde qui occupe M. Dombey. Elle revient chaque soir à la brune. Outre son chapeau, elle a des socques et un parapluie quand il pleut. Elle affronte les rires de Tollinson, la colère, les rebuffades de Madame Pipchin et tout le reste pour demander comment va ce cher homme et comment il supporte son malheur. Mais elle n'a rien à faire avec le monde de M. Dombey. Ce monde-là n'a pas besoin d'elle pour le fatiguer, le harceler sans cesse. Miss Tox est une étoile sans éclat, sans couleur, et elle tourne dans son petit orbite, bien loin, dans un autre système. Elle le sait. Elle vient, pleure, repart et se trouve contente. Vraiment, Miss Tox n'est pas si exigeante que le monde qui tourmente tant M. Dombey. Au bureau, les employés discutent sur toutes ses faces le grand événement. Mais ils se demandent avant tout qui remplacera M. Carker. Tous s'accordent à croire que les émoluments seront rognés et que la place ne sera plus aussi bonne, aussi agréable, par suite des restrictions et des conditions qu'on y mettra. Ceux qui n'ont pas le moindre espoir de l'obtenir disent qu'ils aiment autant ne pas l'avoir et qu'ils ne l'envient pas à la personne qui en sera favorisée. Depuis la mort du petit Paul, on n'a jamais vu dans le bureau tant d'émoi. Mais, en général, l'agitation dans ce quartier prend un tour aimable, pour ne pas dire jovial, et ne fait qu'ajouter aux agacements de la camaraderie. On profite d'une aussi bonne occasion pour réconcilier ensemble le bel esprit du bureau et son rival surnuméraire qui, depuis plusieurs mois, se faisait une guerre à mort. Pour célébrer une réconciliation si heureuse, on propose un petit dîner et l'on se réunit à une taverne voisine. Le bel esprit occupe le fauteuil, le rival est vice-président. Quand la nappe est enlevée, commencent les discours. C'est le président qui ouvre la séance en disant « Messieurs, je ne puis me dissimuler que ce n'est pas le moment de se livrer à des guerres intestines. Des événements récents, auxquels il est inutile de faire autrement allusion, mais dont il a été dit quelques mots dans certains journaux du dimanche, et dans un journal quotidien que je ne nommerai pas ici, tous les autres membres de la société le nomment à voix basse, au milieu d'un murmure général, ces événements, dis-je, m'ont fait réfléchir mûrement. Il me semble que, dans un tel moment, une querelle personnelle avec Robinson serait un attentat contre les sentiments généreux dont j'espère que tous les employés de la maison ont toujours été animés pour la cause générale. » Robinson répond à ce discours en homme de cœur, en bon frère. Puis un employé qui, depuis 3 ans, est resté dans le bureau, mais toujours à la veille d'être remercié pour ses fautes de calcul continuelles, se montre tout à coup sous un jour nouveau. « Puisse notre chef vénéré, s'écrie-t-il dans un speech saisissant, ne plus jamais voir semblable malheur tomber sur son toit. » À quoi il ajoute bien d'autres souhaits, commençant toujours par ces mots, « Puisse-t-il ne plus jamais ?» Et à chaque phrase, c'est un tonnerre d'applaudissements. Bref, on passe une soirée charmante que vient troubler seulement une dispute entre 2 employés subalternes sur les bénéfices de M. Carker pendant les dernières années. Ils se lancent des carafes à la tête et on les met à la porte dans un état de violente colère. Le lendemain matin, on fait en général au bureau une grande consommation d'eau de seltz pour se rafraîchir, et plus d'un convive de la veille, au moment de payer la carte, la trouve par trop exagérée. Quant à M. Punch, l'homme de peine, il va se ruiner pour toujours. Il se retrouve constamment dans les tavernes. À force de régalade, il tombe ivre-mort sous la table. Il croit, partout et toujours, rencontrer des visages consternés par les derniers événements. « Monsieur ou madame, leur dit-il suivant le sexe, comme vous paraissez pâle !» À ces mots, l'on tremble de la tête aux pieds et l'on se sauve en criant « Oh, Punch !» Est-ce la conséquence de la triste nouvelle? Est-ce l'effet naturel produit par le liquide? Toujours est-il que M. Punch est très abattu à cette heure de la soirée où, ordinairement, il va chercher des consolations à Ball's Pond dans la société de Mme Punch. La pauvre Mme Punch se tourmente beaucoup car elle craint que la confiance de son mari dans la fidélité du sexe ne soit de plus en plus ébranlée et qu'il ne s'attende, en rentrant le soir, à la trouver partie avec un vicomte. Les domestiques de M. Dombey sont aussi complètement détraqués et incapables de faire leur service. Tous les soirs au souper, ils en parlent devant leur verre tout fumant de vin chaud. M. Tollinson est toujours en train vers les 10h30. « Faites-moi donc le plaisir de me dire, répète-t-il souvent, si je ne vous ai pas prévenu, qu'il ne pouvait jamais rien résulter de bon de demeurer à un coin de rue. » On parle tout bas de Florence. Où est-elle? On est d'accord que M. Dombey n'en sait rien, mais que Mme Dombey le sait, elle. On est amené naturellement à parler de Mme Dombey. Elle avait tout de même une belle prestance, dit la cuisinière, n'est-ce pas? Mais elle était trop haute. Oui, elle était trop haute, répond l'assemblée d'un commun accord. L'ancienne passion de Tollinson, la bonne de la maison, qui continue à marcher dans le sentier de la vertu, ajoute, qu'on vienne encore après cela me parler de ces gens qui lèvent la tête si haut, comme si la terre n'était pas digne de les porter. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait ce jour-là, se dit et se fait en compagnie. C'est un chorus général. Il n'y manque que M. Dombey. Mais M. Dombey est seul de son côté et le monde de l'autre. Chapitre 14. Renseignements mystérieux. La bonne Madame Brown et sa fille Alice étaient silencieuses dans leur chambre. C'était au commencement de la soirée, dans les derniers jours du printemps. Il y avait déjà quelques jours que M. Dombey avait parlé au major Bagstock des singuliers renseignements qu'il avait obtenus d'une façon plus singulière encore, renseignements qui pouvaient être vrais ou sans fondement. Le monde n'avait pas encore obtenu la satisfaction désirée. La mère et la fille étaient assises depuis longtemps, sans avoir échangé un seul mot, sans avoir bougé de leur place. La laide figure de la vieille exprimait l'inquiétude et l'attente. Celle de la fille exprimait l'attente aussi, mais plus patiente. De temps en temps même, elle s'assombrissait, témoignait la déception et le doute. La vieille, sans s'occuper des changements d'expression qui se succédaient sur le visage de sa fille, quoiqu'elle tournât souvent ses yeux vers elle, demeurait assise, toujours marmottant, toujours mâchonnant et prêtant mystérieusement l'oreille. Leur habitation, quoique pauvre et misérable, avait cependant gagné un peu de confort et ne ressemblait plus du tout à la demeure de la bonne Madame Brown, à l'époque où celle-ci était seule. On voyait qu'on avait voulu y mettre plus d'ordre, plus de propreté, et quoique ce fût toujours une habitation de bohémienne, on y sentait la présence de la jeune fille. Les ombres de la nuit descendaient toujours, et les deux femmes gardèrent le silence jusqu'au moment où la chambre se trouva dans une obscurité presque complète. Alors Alice rompit ce long silence. « Vous pouvez y renoncer, dit-elle, mère, il ne viendra pas. »« Y renoncer, la mort y renoncerait plus tôt, répondit la vieille dans un mouvement d'impatience. Il viendra. »« Nous verrons, dit Alice. »« Vous le verrez, répliqua la mère, et le jour du jugement dernier aussi. »« Vous me croyez retomber en enfance, croassa la vieille. »« Voilà le respect que j'obtiens de ma propre fille. »« Mais je ne suis pas si bête que vous croyez. Il viendra. » L'autre jour que je n'ai fait seulement que le toucher à l'habit, on aurait dit que j'étais un crapaud à la manière dont il me regardait. Mais il fallait voir, grand Dieu, l'œil qu'il m'a fait quand je lui ai dit leur nom
et que je lui ai demandé si ça lui ferait plaisir qu'on découvrît où ils sont.
« Était-il en colère ?» demanda la fille, dont l'intérêt parut un instant éveillé.
« En colère ? Dites plutôt rouge comme un coq.
Ah ah, en colère ! Appelez ça en colère !» dit la vieille, qui se dirigea en boitant du côté du buffet pour allumer une chandelle. Quand elle revint prendre sa place à la table, sa bouche grimaçante, éclairée par la lumière, lui donnait encore un air plus hideux.
« C'est comme vous, quand vous parlez d'eux. Je vous demande si vous êtes en colère, hein ?»
En effet, il fallait la voir accroupie en silence comme une tigresse, avec des yeux flamboyants.
« Écoutez, dit la vieille d'un air de triomphe, j'entendais pas. Ce n'est pas la démarche de quelqu'un qui habite dans le voisinage, ni qui vienne souvent par ici. Nous ne marchons pas comme ça, non ? Nous serions fiers d'avoir de pareils voisins, l'entendez-vous ?
« Je crois que vous avez raison, mère, reprit Alice à voix basse.
« Chut, ouvrez la porte. »
Alice s'enveloppa dans son châle, le serra autour d'elle pendant que sa mère allait ouvrir la porte. Elle regarda sur le carré, fit signe du doigt. Monsieur Dombey entra. Il s'arrêta quand il eut posé le pied sur le seuil de la porte et lança tout autour de lui un regard méfiant.
« C'est une bien humble demeure pour un aussi grand personnage que votre seigneurie, » dit la vieille en faisant une révérence et en marmottant entre ses dents.
« Je vous l'avais bien dit, mais cela ne fait rien. »«
Qui est-ce qui est là ?» demanda M. Dombey en lui montrant sa compagne.
« C'est ma jolie fille, » dit la vieille. « Votre seigneurie n'a pas besoin de s'en inquiéter. Elle est au courant de l'affaire. »
Une ombre s'étendit sur le visage du noble visiteur. C'était comme s'il eût soupiré tout haut. Qui donc l'ignore ?
Il la regarda d'un air hautain, et elle, sans lui faire le moindre salut, le regarda aussi. L'ombre qui s'était étendue sur son visage s'épaissit. Il détourna son regard de la jeune femme, mais il reporta bientôt ses yeux de son côté à la dérobée, comme si cet œil hardi le poursuivait d'un souvenir odieux en lui rappelant celui d'un autre. « Femme, dit M. Dombey à la vieille sorcière qui gloussait et frisait ses yeux à ses côtés, et qui, en se voyant interpellée, fit un signe furtif à sa fille, se frotta les mains et lui fit un autre signe encore, « Femme, c'est une grande faiblesse de ma part de déroger ainsi à mon rang en venant ici. Mais vous savez pourquoi je viens, et ce que vous m'avez offert quand vous m'avez arrêté l'autre jour dans la rue. Qu'avez-vous à me dire concernant l'affaire qui m'intéresse ? Et comment se fait-il que je puisse avoir dans un bouge comme celui-ci ? » Et il jeta un regard de mépris autour de lui, « que je puisse avoir ici des détails proposés de plein gré quand j'ai employé en vain tous les moyens, tout mon pouvoir, pour en obtenir partout ailleurs. » « Je n'imagine pas, dit-il après un moment de silence, pendant lequel il l'avait observé sévèrement, je ne pense pas que vous ayez l'audace de plaisanter avec moi ou de m'en imposer. Mais si tel est votre dessein, vous feriez mieux de vous arrêter au début de votre ruse. Je ne suis pas d'humeur à rire, et vous pourriez avoir à vous repentir de votre hardiesse.
« Oh, je sais bien que vous êtes un gentleman fier et dur, » gloussa la vieille en secouant la tête et en frottant ses mains ridées.
« Oui, dur, dur, dur. Mais votre seigneurie entendra de ses propres oreilles et verra de ses propres yeux. Et si je la mets sur leurs traces, elle ne refusera pas de me donner quelque chose pour ma peine. N'est-ce pas, mon digne gentleman ?»«
L'argent, » répondit M. Dombey, que cette question semblait avoir rassuré et mis à l'aise, « peut faire des miracles, je le sais. Il peut expliquer même des moyens aussi inattendus et aussi peu croyables que ceux-ci. »
« Oui, je paierai tout renseignement qui me paraîtra vraisemblable. Mais je veux les renseignements d'abord pour juger moi-même de leur valeur. »
« Vous ne connaissez donc rien de plus puissant que l'argent ?» demanda la jeune femme, sans se lever et sans changer d'attitude.
« Non, pas ici, du moins, j'imagine, » dit M. Dombey.
« D'après ce que j'entends dire, vous savez pourtant qu'il y a ailleurs quelque chose de plus puissant, » reprit-elle. « Ne savez-vous rien de la colère d'une femme ?»
« Vous avez une langue bien hardie, coquine, » dit M. Dombey.
« Non, pas habituellement, » répondit-elle, sans témoigner la moindre émotion. « Si je vous parle en ce moment, c'est pour que vous nous compreniez mieux et que vous ayez plus de confiance en nous. La colère d'une femme est aussi puissante ici que dans votre magnifique demeure. Je suis en colère, moi, je le suis depuis bien des années. J'ai d'aussi bonnes raisons d'être en colère que vous-même, et l'objet de ma colère est le même homme. »
Il tressaillit malgré lui et la regarda avec surprise.
« Oui, dit-elle avec une sorte de ricanement, quelque grande que paraisse la distance qui nous sépare, c'est comme je vous le dis. Peu vous importe pourquoi, c'est mon histoire et je garde mon histoire pour moi. Je voudrais vous faire rencontrer avec lui parce que j'ai à me venger de lui. Ma mère que voici est avare et pauvre, et elle vendrait les renseignements qu'elle pourrait avoir, elle vendrait n'importe quoi, n'importe qui, pour de l'argent. Il est assez juste, peut-être, que vous lui donniez quelque chose, si elle peut vous aider dans les recherches que vous faites. Pour moi, ce n'est pas là le motif qui me fait agir. Je vous ai dit le mien. Il est aussi puissant, aussi sûr que si vous discutiez et marchandiez avec elle quelques pièces de 10 sous. J'ai fini. Ma langue hardie n'en dira pas davantage. Quand même, vous resteriez là jusqu'au lever du soleil demain matin. » La vieille avait montré un grand malaise tout le temps de ce discours. Les paroles de sa fille pouvaient nuire à la récompense qu'elle espérait. Aussi tira-t-elle doucement M. Dombey par la manche, en lui disant tout bas de n'y pas faire attention. Il les regarda toutes deux tour à tour d'un air hagard, et s'écria, d'une voix que l'émotion faisait trembler contre son habitude, « Eh bien, dites, que savez-vous ? » ?»«
Oh, pas si vite, mon digne gentleman. Il nous faut attendre quelqu'un, répondit la vieille. Il faut que nous lui tirions les vers du nez. C'est un secret qu'il va falloir lui arracher de gré ou de force. Que signifie cela ? Demanda M. Dombey.
Patience, croissa la vieille, en posant sur le bras de son hôte sa main, ou plutôt sa griffe.
Patience, je l'aurai, son secret, j'en suis certaine.
S'il voulait me le cacher, dit la bonne Madame Brown, en montant ses doigts crochus, je le lui arracherai plutôt du cœur.
M. Dombey la suivit des yeux pendant qu'elle s'en allait regarder à la porte tout en boitillant. Puis son regard chercha la fille qui restait immobile, silencieuse, et ne semblait plus s'occuper de lui.
« Ne m'avez-vous pas dit, femme, que vous attendiez une autre personne, dit-il, quand Madame Brown rentra, courbée en deux et branlant sa tête marmottante ?»«
Oui, dit la vieille en le regardant en face et en hochant la tête. »
« C'est de cette personne que vous obtiendrez les détails qui me sont nécessaires ?»«
Oui, dit la vieille, avec un autre signe de tête. »«
M'est-elle inconnue ?»«
Chut !» dit la vieille, avec un ricanement à faire trembler. « Qu'importe ! Eh bien non, ce n'est pas un étranger pour votre seigneurie. »«
Mais il ne vous verra pas. Il aurait peur de vous et ne dirait rien. »«
Vous resterez derrière cette porte et vous jugerez par vous-même. »«
Nous ne demandons pas qu'on nous croie sur parole. »
« Et quoi, votre seigneurie hésite ? Elle se méfie de la chambre du fond ?»«
Oh, c'est bien là votre esprit soupçonneux à vous autres grands seigneurs. Eh bien, regardez-y alors !»
L'œil pénétrant de la vieille avait vu sur le visage de M. Dombey une expression involontaire de méfiance que pouvait du reste justifier les circonstances. Pour le rassurer, elle prit la lumière et le conduisit à la porte de la chambre dont elle avait parlé. M. Dombey regarda dans l'intérieur et s'assura que la pièce était vide et nue. Il lui fit signe de remettre la lumière à sa place.
« Combien faudra-t-il attendre après cette personne ? » demanda-t-il.
« Peu de temps, répondit-elle. Votre seigneurie veut-elle bien s'asseoir seulement quelques pauvres petites minutes ?»
Il ne répondit pas, mais il se mit à marcher dans la chambre d'un air irrésolu. Il semblait se demander s'il devait rester ou sortir. On eût dit qu'il se reprochait d'être là. Mais bientôt son pas devint plus lent et plus pesant. Il parut plongé dans une rêverie plus profonde. L'objet de sa démarche absorbait évidemment son esprit tout entier. Pendant qu'il se promenait ainsi les yeux baissés, Madame Brown avait repris sa place sur la chaise qu'elle avait quittée pour le recevoir, et elle écoutait de nouveau. Le retentissement monotone des pas de M. Dombey, ou son grand âge, lui rendait l'ouïe un peu moins sensible, et la vieille écoutait encore, que depuis quelques moments déjà, un bruit de pas dans la rue avait été entendu de la fille, qui lança à sa mère un regard rapide pour la prévenir. Aussitôt elle se leva et s'écria tout bas « Le voilà !» Elle se hâta de conduire son hôte à son poste d'observation, mit sur la table une bouteille de vin et un verre, tout cela si vite qu'elle fut prête à temps pour jeter ses bras autour du cou de Robin le rémouleur quand il parut à la porte.
« Ah, le voilà donc enfin, ce cher enfant !» s'écria Madame Brown. « À la bonne heure, c'est bien ça, mon bon Robinet !»
Eh, Mme Brown, dit le remouleur en se dégageant de son étreinte, assez, assez. Est-ce que vous ne pouvez pas aimer un gars sans l'étrangler et l'étouffer? Prenez garde à la cage que je porte, hein, s'il vous plaît.
Il pense à des cages au lieu de penser à moi, s'écria la vieille en levant les yeux au plafond.
À moi qu'il aime plus que s'il était mon fils.
Oui, Mme Brown, je vous en remercie bien, dit le malheureux garçon, qui avait peine à reprendre sa respiration.
Mais vous êtes aussi trop caressante. Moi, je vous aime bien aussi, comme de juste, mais je ne vous étouffe pas, moi, Madame Brown.
En parlant ainsi, il la regardait d'un air qui voulait dire, pourtant, qu'il ne serait pas très éloigné de l'étrangler dans l'occasion.
Et parce que je parle de cage, dit le rémouleur en pleurnichant, où est le mal?
Eh bien, tenez, savez-vous à qui c'est, ça?
À ton maître, chéri, dit la vieille en grimaçant.
« Ah !» répondit Robin en mettant sur la table une cage bien enveloppée dans une housse dont il défaisait les nœuds avec les dents et avec les mains.
« C'est notre perroquet, le voilà !»«
Le perroquet de M. Carker, Robin ?»«
Voulez-vous bien vous taire, Mme Brown ?» répliqua Robin impatienté.
« Qu'est-ce que vous avez besoin de dire les noms comme ça ?»«
Le diable m'emporte !» ajouta Robin en s'arrachant dans sa colère les cheveux à deux mains « si elle ne finira pas par me rendre enragé. »
« Eh bien, est-ce que par hasard vous allez me faire des reproches, petit ingrat ?» s'écria vivement la vieille.
« Oh, bon Dieu, non, Mme Brown !» dit le rémouleur avec des larmes dans les yeux.
« Qui est-ce qui a jamais parlé de ça ?
Est-ce que je ne vous aime pas à la folie, Mme Brown ?»«
Bien vrai, Robinet, mon petit canard !» Dans un transport de tendresse, Mme Brown l'étreignit une seconde fois dans ses bras. Pour s'en dégager, le malheureux eut à faire des efforts inouïs avec ses jambes. Ses cheveux s'en tressèrent sur sa tête.
« Ah, mon Dieu !» dit le rémouleur, « que c'est ennuyeux d'être aimé comme ça. Je voudrais la voir au 500. Comment vous êtes-vous portée, Mme Brown ?»«
Ah, dire qu'il n'était pas venu ici depuis bientôt 8 jours !» dit la vieille en lui lançant un regard de reproche.
« Mon Dieu, Mme Brown !» répondit le rémouleur, « je vous ai dit ça, il y a de ça 8 jours, que je reviendrai ce soir. Voyons, ne vous l'avais-je pas dit ? Eh bien, me voici !»
Comme vous êtes drôle aussi. Il faudrait pourtant être un peu raisonnable, Mme Brown. Je suis là à m'égosiller, à me défendre, et j'ai la figure toute rouge de vos embrassades. Puis il se frotta la figure avec sa manche, comme pour en effacer les marques d'amitié de la vieille.
Allons, Robinet, mon ami, une petite goutte pour vous remettre, dit la vieille en remplissant un verre qu'elle lui donna.
Merci, Mme Brown. À votre santé. Puissiez-vous pendant longtemps, etc.
À en juger par l'expression de sa physionomie, le toast contenu dans le « etc. » n'appelait pas sur la vieille les bénédictions du ciel.
« Et à sa santé aussi, » dit le rémouleur, en lançant un regard à Alice. Il croyait qu'Alice tenait ses yeux fixés sur la muraille derrière lui, tandis que réellement c'était sur la figure de M. Dombey cachée par la porte.
« À sa santé, » répéta-t-il, « je lui souhaite la même chose, accompagné de plusieurs autres. »
Là-dessus, il vida son verre et le déposa sur la table.
« Eh bien, voyons, Mme Brown, continua-t-il, commençons à parler raison. Vous vous connaissez en oiseaux et vous savez ce qu'ils valent. Je l'ai bien appris à mes dépens. »«
À tes dépens, » répéta Mme Brown.
« À ma satisfaction, que je veux dire, » répliqua le rémouleur.
« Comme vous tourmentez un pauvre gars, Mme Brown. Là, voilà que vous m'avez fait oublier ce que je voulais vous dire. »
« Tu disais, Robinet, que je me connaissais en oiseau, » dit la vieille.
« Ah, c'est cela, » dit le rémouleur. « Eh bien, j'ai été chargé de prendre soin de ce perroquet. Il y a eu certaines choses de vendues, une certaine maison mise sans dessus-dessous, et comme je ne tiens pas à ce qu'on le sache maintenant, je serais bien aise que vous vous chargiez pour une semaine ou deux de ce pensionnaire, et que vous lui donniez la table et le logement, hein, voulez-vous ?
S'il faut que j'aille et que je vienne ici comme ça, dit le rémouleur d'un air piteux, j'aime autant que ce soit pour quelque chose.
Comment pour quelque chose ? S'écria la vieille.
Ah, je veux dire sans vous compter, Mme Brown, répondit Robin tout effrayé.
Car je viendrai bien pour vous seul, Mme Brown, vrai comme je vous le dis. Ne vous remettez pas encore en colère pour l'amour du bon Dieu.
Ah, il ne m'aime pas comme je l'aime, s'écria Mme Brown en levant ses mains décharnées.
Mais ça n'empêche pas que je prendrai soin de son oiseau.
Prenez-en bien soin, savez-vous, Mme Brown, dit Robin en secouant la tête, car s'il vous arrivait seulement de le caresser à rebrousse-poil, je crois qu'on s'en apercevrait.
« Ah, il est si fin que ça ?» dit Madame Brown vivement.
« Fin, Madame Brown ?» répéta Robin.
« Lui ? Mais Motus, il ne faut pas parler de ça. »
Il s'arrêta court et remplit de nouveau son verre qu'il vida lentement, non sans avoir promené un regard d'effroi tout autour de la chambre. Puis il secoua la tête et commença à passer ses doigts à travers les barreaux de la cage du perroquet pour faire diversion au dangereux sujet de conversation qu'on venait d'effleurer. La vieille le regarda d'un air rusé, traîna sa chaise près de lui, contempla le perroquet qui descendait à sa voix de son dôme doré, et elle dit au rémouleur « Te voilà sans place maintenant, Robinet. »«
Qu'est-ce que ça vous fait, Mme Brown ?» répondit sèchement le rémouleur.
« Après ça, on te paye peut-être ta nourriture, Robin, » dit Mme Brown.
« Viens, mon petit coco, » dit le rémouleur.
La vieille lui lança un regard qui aurait pu le faire trembler pour ses oreilles. Mais comme il ne voulait paraître occupé que du perroquet, ses yeux ne virent pas l'expression menaçante de cette figure que son imagination lui représentait trop bien.
« Ça m'étonne, Robin, que ton maître ne t'ait pas emmené avec lui, » dit la vieille en le cajolant avec un sourire de plus en plus rusé.
Robin était si absorbé par la contemplation du perroquet et si occupé à fourrer son doigt à travers les barreaux de la cage qu'il ne répondit pas.
« Robinet, mon chéri !» « Quoi, Mme Brown ?» répondit le rémouleur.
« Je te disais que j'étais surprise que ton maître ne t'ait pas emmené avec lui. »«
Qu'est-ce que ça vous fait, Mme Brown ?» répondit le rémouleur.
Mme Brown aussitôt allongea sa griffe droite sur la perruque de Robin et sa griffe gauche sur sa gorge, et elle serra l'objet de sa tendre affection avec une telle rage que la figure de Robin devint noire en un instant.
« Mme Brown !» s'écria le rémouleur. « Lâchez-moi, hein ?» « Que faites-vous ? Au secours, là, mademoiselle ! Mme Brown ! Mme Brown !»
Cependant, la jeune femme ne se laissa toucher, ni par l'appel direct qu'il lui faisait, ni par ses cris étouffés. Elle resta immobile jusqu'au moment où Robin, après avoir lutté contre la vieille dans un coin de la chambre, se délivra de son étreinte et resta debout tout haletant, les coudes en avant pour être prêt à se défendre, car la vieille, toute haletante aussi, trépignait de rage et de fureur, et semblait recueillir toutes ses forces pour lui livrer un nouvel assaut. Ce fut alors qu'Alice ouvrit la bouche, mais non pas en faveur du rémouleur, pour dire à sa mère « Bien travaillé, mère, mettez-le en pièces. »«
Oh, mamselle !» sanglota Robin, « vous êtes aussi contre moi, vous ? Qu'est-ce que j'ai donc fait ? Je voudrais bien savoir pourquoi vous voulez qu'on me mette en pièces. Pourquoi vous vous en prenez comme ça à un pauvre gars qui ne vous a jamais fait mal ni à l'une ni à l'autre ?»
« Est-il possible que vous soyez des femmes ?» s'écria le rémouleur dans son désespoir et sa terreur, tout en portant la manche de sa veste à ses yeux.
« Ça m'étonne de votre part. Si c'est ça la douceur des femmes, à ce qu'on dit, excusez. »«
Mauvais chien, ingrat, impudent, gredin !» s'écria la vieille d'un ton saccadé.
« Mais qu'est-ce que j'ai donc fait pour vous offenser, Mme Brown ?» répliqua Robin, suffoqué par les sanglots.
« Vous m'aimiez tant, il n'y a qu'un instant. »
« Oui, il me répond à demi-mot et d'un air rechigné, » dit la vieille.
« Parce que je ne serais pas fâché de cancaner un peu sur son maître et sur cette dame. Il fait le finot avec moi. »«
Assez causé, mon garçon. Suffit. Tu peux filer. »
Mais, Mme Brown, riposta le misérable rémouleur,
« j'ai jamais dit que je voulais m'en aller. S'il vous plaît, Mme Brown, ne parlez pas comme ça. »«
Je ne te parlerai pas du tout, » dit Mme Brown, en allongeant vers lui ses doigts crochus, ce qui le fit rentrer tout ratatiné dans son coin.
« Non, je ne soufflerai pas un mot de plus. C'est un méchant ingrat. Je le renie. Qu'il file, qu'il file. Je lancerai à ses trousses des gens qui parleront peut-être bien trop. Il ne pourra pas s'en débarrasser de cela. Ils s'attacheront à lui comme des sangsues et le traqueront comme des renards. Ah, il les connaît bien. Il se rappelle ses jeux d'autrefois, les vies qu'il faisait. S'il a oublié tout ça, cela l'en feront souvenir. Qu'il file, qu'il file. » Il verra comment il pourra mener les affaires de son maître et garder ses secrets avec ces gens-là sur ses talons.
Ah, 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 ce sera bien autre chose qu'avec vous et moi, Alice, quand nous sommes là en tête à tête comme des amis. Allons, file, file, mon petit. »
En disant ces mots, la vieille, au grand effroi du rémouleur, tournait sur elle-même, dans un cercle de 4 pieds de diamètre, sa hideuse personne, en répétant toujours la même phrase, en tenant son poing levé sur la tête de son jeune ami et en grinçant des dents.
« Mme Brown !» dit Robin d'un ton suppliant, sortant un peu de son coin,
Voyons, n'est-ce pas, qu'en y réfléchissant de sang-froid, vous ne voudriez pas recommencer à tourmenter comme vous faites un pauvre gars comme moi.
Ne me parle pas, dit Madame Brown, en continuant toujours avec rage son manège. File, file.
Madame Brown, répéta le rémouleur accablé, je n'avais pas l'intention de...
Oh, quel malheur pour un pauvre gars d'être une fois sur cette pente-là.
J'avais peur de causer, Madame Brown. Voyez-vous, je suis toujours dans des transes parce qu'ils devinent tout. Mais je savais bien qu'avec vous, je ne pourrais pas me taire longtemps.
Tenez, je suis tout à fait content de canconner un petit brin, Madame Brown, dit-il d'un air désolé.
Mais ne vous avancez pas comme ça, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu, mademoiselle, ne viendrez-vous pas au secours d'un malheureux gars comme moi ? Dit le rémouleur en invoquant la fille d'un ton de désespoir.
« Allons, mère, vous entendez ce qu'il dit ? » fit-elle d'une voix sévère, et en secouant la tête avec impatience. « Essayez encore une fois, et s'il recommence, mettez-le en morceaux si vous voulez, et que ça finisse. »
Madame Brown, touchée comme on peut le croire par une exhortation si tendre, commença par hurler quelques lamentations, puis peu à peu elle s'adoucit et prit dans ses bras le rémouleur repentant. Il lui serra de son côté la taille avec une expression de douleur indicible, et, victime résignée, il alla reprendre sa place tout près de sa vénérable amie. Il consentit à passer son bras sous le sien et à l'y laisser, mais l'air calme qu'il affectait était en contradiction évidente avec les sentiments violents que révélait son visage.
« Et comment va ton maître, cher bon ?» dit Madame Brown, quand, après s'être assis amicalement à côté l'un de l'autre, ils eurent trinqué ensemble.
« Chut, si vous voulez bien, Madame Brown, » dit Robin d'un ton suppliant, « parlez un peu plus bas. »«
Il se porte bien, je crois, merci. »«
Tu n'es donc pas hors de ta place, Robin ?» dit Madame Brown d'un ton câlin.
« Mais non, je ne suis précisément ni hors de place, ni en place, » balbutia Robin.
« Je reçois encore mes gages, Madame Brown. »«
Et tu n'as rien à faire, Robin ?»«
Rien de particulier en ce moment, Madame Brown. »« Sinon d'avoir les yeux au guet, » dit le rémouleur, en les roulant d'un air désolé.
« Est-ce que ton maître est loin, Robin ?»«
Oh, pour l'amour du bon Dieu, Madame Brown, ne pourriez-vous pas cancaner avec un pauvre gars sur un autre sujet ?» dit le rémouleur avec un cri de désespoir.
L'impétueuse Madame Brown s'étant levée tout à coup, le malheureux rémouleur la retint en bégayant.
« Oh oui, Madame Brown, je crois qu'il est loin. »
Qu'est-ce donc qu'elle regarde comme ça, elle ?
Cette observation était faite pour la fille, dont les yeux étaient fixés sur le personnage qui avançait la tête derrière Robin.
« N'y fais pas attention, mon garçon, » dit la vieille en le serrant de plus près pour l'empêcher de se retourner.
« C'est son air comme ça.
Dis-moi, Robin, as-tu jamais vu la dame, mon petit ?»«
Ah, Mme Brown, quelle dame !» s'écria le rémouleur du ton le plus piteux.
« Quelle dame » répliqua-t-elle. « Et tu sais bien, Madame Dombey !»
« Oui, je crois que je l'ai vue une fois, » répondit Robin.
« Le soir où elle est partie, mon petit Robinet ?» dit la vieille à son oreille, et examinant soigneusement le moindre changement d'expression sur son visage.
« Ah, ah, je sais bien que c'était ce soir-là. »«
Eh bien, si vous le savez, vous le savez. C'est pas la peine de pincer un pauvre garçon pour lui faire dire ça, alors. »«
Où sont-ils allés ce soir-là, Robin ? Droit devant eux ? Comment sont-ils partis ?»
« Où l'as-tu vue, elle ? Riait-elle ? Pleurait-elle ? Dis-moi tout ce que tu sais !» cria la vieille sorcière, qui le serrait toujours de plus près pendant que sa main droite, passée dans le bras de son prisonnier, frappait convulsivement la main gauche et que son œil chassieux cherchait à surprendre sur sa figure le moindre mouvement.
« Allons, va, décide-toi ! Je ne demande que tu me renseignes.
Voyons, mon petit Robinet !»
« Nous savons bien ce que c'est que de garder un secret à nous deux. Nous l'avons déjà fait. Où sont-ils allés, d'abord ?»
Le malheureux Robin ouvrit la bouche et s'arrêta.
« Es-tu muet, décidément ? » dit la vieille en colère.
« Oh, mon Dieu, non, Mme Brown. Mais ne voulez-vous pas qu'un pauvre gars comme moi prenne feu comme un éclair ?
Ah, si je pouvais en disposer du fluide électrique, se dit tout pas l'épouvanté rémouleur, je sais bien sur qui je tomberais pour régler tout de suite nos comptes.
« Qu'est-ce que tu dis ?» dit la vieille en grimaçant.
« À votre santé, Madame Brown, » dit l'hypocrite Robin en cherchant un refuge dans son verre.
« Où sont-ils allés d'abord, c'est ça que vous me demandez ? Lui et elle, bien entendu ?»«
Certainement, » dit la vieille avec avidité. « Je parle de tous les deux. »«
Ils ne sont allés nulle part, »
Du moins, pas ensemble, je veux dire, répondit Robin. La vieille le regarda comme si elle allait lui sauter à la figure et le saisir à la gorge. Mais elle se retint en voyant dans la physionomie de Robin qu'il allait entamer le mystère. C'était le bon de l'affaire, voyez-vous, dit le rémouleur, de mauvaise grâce. Ça fait que comme ça, personne n'a vu où ils allaient et qu'on ne peut pas dire où ils sont partis. Ils ont pris des chemins différents. Voilà, Mme Brown. Bon, bon, fit la vieille, en riant à gorge déployée, après avoir examiné un moment en silence l'expression de ses traits. Il s'était donné rendez-vous pour se retrouver quelque part. Dame, s'ils n'avaient pas dû se retrouver quelque part, ils auraient aussi bien fait de rester chacun chez eux, j'imagine. N'est-ce pas, Mme Brown ? Répondit le rémouleur récalcitrant. Après, Robin, après, dit la vieille en serrant plus fortement son bras contre le sien, comme si dans sa joie, elle eût craint de le voir s'échapper. Et quoi ? N'avons-nous pas encore assez causé, Mme Brown ? Répondit le rémouleur, qui, sous l'influence du mal qu'on lui faisait, du vin qu'il buvait, et de la question morale à laquelle il était soumis, était devenu si pleurnicheur qu'à chaque mot qu'il prononçait, il portait le parement de son habit à son œil droit ou à son œil gauche en poussant un gémissement. « Si elle a ri ce soir-là, n'est-ce pas ? Vous m'avez demandé si elle avait ri, Mme Brown. »« Ou pleuré ?» dit la vieille, faisant un signe d'assentiment. « Elle n'a fait ni l'un ni l'autre, » dit le rémouleur. « Elle était aussi froide quand elle et moi... » « Oh, je vois bien que vous voulez tout savoir, Mme Brown. Mais jurez-moi votre parole d'honneur que vous le direz à personne. » Mme Brown, naturellement jésuitique, prêta un serment qui ne lui coûtait guère, car l'important pour elle, c'était que le personnage caché pût entendre lui-même. Elle était aussi ferme quand elle et moi nous sommes allés à Southampton qu'une vraie statue. Le lendemain, elle était tout de même, Mme Brown. Et quand elle est montée dans le paquebot avant le jour toute seule, j'étais censé son domestique qui la conduisait à bord, eh bien, elle était toujours tout comme. Ah, maintenant, vous la contentez, Mme Brown. Non, Robin, pas encore, répondit Mme Brown d'un ton décisif. Oh, quelle femme vous faites ! S'écria le malheureux rémouleur en poussant un sourd gémissement pour se plaindre de son sort. Qu'est-ce que vous voulez donc encore savoir, Mme Brown ? Qu'est devenu ton maître ? « Où est-il allé ? » lui demanda-t-elle en le serrant toujours de près et en le regardant dans le blanc des yeux. « Ma parole, je ne sais pas, Mme Brown, » répondit Robin. « Je ne sais pas ce qu'il a fait ni où il est allé. Je ne sais rien de lui. Je me rappelle seulement qu'il m'a dit de me taire quand nous nous sommes séparés. Et je vous préviens, Mme Brown, en ami, que plutôt que de jamais répéter un mot de ce que nous disons maintenant, vous feriez mieux de vous tuer du coup ou de vous enfermer dans cette maison et d'y mettre le feu, car, voyez-vous, il n'y a rien qu'il ne soit capable de faire pour se venger de vous. Vous ne le connaissez pas comme moi, Mme Brown. Il n'y a pas moyen de lui échapper, je vous dis. N'ai-je pas donné ma parole ? Répliqua la vieille. Est-ce que je voudrais y manquer ? Eh bien, j'espère que vous tiendrez votre parole, répondit Robin, de l'air de quelqu'un qui n'est pas très convaincu, et laissant porter sur sa physionomie comme une espèce de menace. Ce que je vous dis là, c'est dans votre intérêt aussi bien que dans le mien. » En lui donnant cet avertissement amical, qu'il corrobora d'un vigoureux mouvement de tête, il la regarda attentivement. Mais cette figure jaunâtre de la vieille grimacière, ses yeux de furet au regard froid et perçant, le mettaient mal à l'aise. Il baissa la tête et s'agita sur sa chaise, comme s'il s'apprêtait à déclarer, de son air le plus grognon, qu'il ne répondrait plus à aucune question. La vieille, toujours placée devant lui, profita de la circonstance pour lever en l'air l'index de sa main droite. C'était un signal mystérieux, adressé au personnage caché derrière la porte pour l'avertir de faire bien attention à ce qui allait se passer. « Robin, lui dit-elle de son ton le plus câlin, « Mon Dieu, Mme Brown, qu'est-ce qu'il y a encore ?» répondit le rémouleur exaspéré. « Robin, où sont-ils allés ? Où se sont-ils donné rendez-vous, ton maître et la dame ?» Robin n'y tenait plus. Il s'agitait sur sa chaise, regardait en l'air, regardait en bas, se mordait le pouce, l'essuyait sur son habit. Enfin, il répondit à son bourreau de questions. « Comment voulez-vous que je le sache, Mme Brown ?» La vieille leva encore son index comme tout à l'heure et répliqua. « Allons, mon garçon, accouche. Ça ne serait pas la peine de m'avoir amené jusque-là pour me laisser en route. Je veux savoir. » Elle attendit la réponse.
Robin, un moment décontenancé, répondit tout à coup « Est-ce que je peux prononcer ces noms-là, Mme Brown ? Des noms de pays étrangers. Il faut être juste aussi. »
« Mais tu l'as entendu dire, ce nom-là, Robinet, » dit la vieille avec fermeté.
« Tu sais à peu près le son que ça peut avoir. Allons, voyons. »«
Je ne l'ai jamais entendu dire, Mme Brown. »«
Eh bien alors, » répondit la vieille, « c'est que tu l'as vu écrit. Tu peux nous dire les lettres. »
Robin commença par pousser une exclamation pétulante, moitié rire et moitié larmes, car ses tortures ne l'empêchaient pas d'admirer l'adresse de Mme Brown. Puis, après avoir fouillé en rechignant dans la poche de son habit, il en retira un petit morceau de craie. Il fallut voir comme les yeux de la vieille étincelèrent lorsqu'elle vit ce morceau de craie entre le pouce et l'index de Robin. Elle se dépêcha de faire de la place sur la table de bois blanc afin qu'il pût écrire le mot, et leva encore sa main pour renouveler le signal.
« Maintenant, Mme Brown, » dit Robin, « je vous avertis qu'il ne faut plus rien me demander après, parce que, voyez-vous, je ne répondrai plus à rien. Combien ont-ils dû être de temps à se rencontrer ? Avaient-ils l'intention de s'en aller chacun de son côté ? Je n'en sais pas plus que vous là-dessus. Si je vous disais comment j'ai trouvé le nom de ce pays-là, vous ne voudriez pas me croire. Faut-il vous le dire ?
Oui, Robin.
Eh bien alors, Mme Brown, voici. Mais vous ne demanderez plus rien après, entendez-vous ? Ajouta-t-il en dirigeant sur elle des yeux lourds et stupides.
« Je ne te dirai plus un seul mot, » répondit Mme Brown.
« Eh bien, voilà comment ça s'est fait. Lorsqu'une certaine personne eut laissé la dame avec moi, elle lui mit dans la main un morceau de papier avec une adresse écrite dessus, lui disant que c'était dans le cas où elle l'oublierait. Il paraît qu'elle n'avait pas peur de l'oublier, car aussitôt que cette personne eut le dos tourné, elle déchira le morceau de papier. Quand je relevais le marchepied de la voiture, j'en retirai quelques morceaux. Elle avait jeté le reste par la portière, car plus tard, j'ai eu beau chercher les autres morceaux, je ne les ai pas trouvés. Sur ce papier, il y avait un mot. Le voici, puisque vous voulez le savoir, et qu'il faut que je vous le dise.
Mais rappelez-vous, Mme Brown, que vous m'avez juré.
Certainement, certainement, répondit la vieille. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles.
Robin, n'ayant plus rien à dire, commença à tracer lentement et laborieusement une lettre sur la table.
« D !» fit la vieille en lisant tout haut la lettre qu'il venait de former.
« Voulez-vous bien vous taire, Mme Brown ?» s'écria Robin en mettant sa main sur la bouche de la vieille avec un mouvement d'impatience.
« Je veux pas que vous le lisiez tout haut. Voulez-vous rester tranquille, hein ?»«
Eh bien, Robin, écris plus gros, » répondit-elle en répétant le mystérieux signal, « car mes yeux ne sont plus bons, même pour lire de l'imprimé. »
Robin marmotta, se remit à l'œuvre de mauvaise humeur et continua à décrire le mot. Pendant qu'il avait la tête penchée, le personnage pour lequel il travaillait à son insu s'avança de la porte tout doucement et, s'arrêtant à une petite distance de Robin, regarda avec avidité, par-dessus ses épaules, chaque lettre que sa main traînante formait sur la table. En même temps, Alice, assise en face de Robin, suivait de l'œil le moindre jambage qu'il traçait, et le mouvement de ses lèvres répétait chaque lettre sans l'articuler tout haut. Lorsqu'une lettre était finie, ses yeux regardaient ceux de M. Dombey, comme s'il cherchait par ce contrôle réciproque à s'assurer qu'il lisait la même chose. C'est ainsi qu'à la fin, ils arrivèrent tous deux à épeler le mot « D-I-J-O-N ».
« Voilà !» dit le rémouleur qui se dépêcha de cracher dans sa main pour effacer le mot. Et il ne se contenta pas de barbouiller les caractères qu'il avait tracés. Il les frotta soigneusement avec la manche de son habit jusqu'à ce qu'il eût fait disparaître tout le plan de la craie. « J'espère que vous êtes satisfaite maintenant, Mme Brown. »
La vieille, en témoignage de sa satisfaction, lui quitta le bras et lui donna une petite tape sur le dos. Le rémouleur, exténué par l'humiliation, par l'interrogatoire et par la liqueur qu'il avait bue, se croisa les bras sur la table, tomba la tête en avant et s'endormit. Il y avait quelque temps qu'il était plongé dans un lourd sommeil et qu'il ronflait bruyamment lorsque la vieille se dirigea vers la porte derrière laquelle était caché M. Dombey, lui fit signe de traverser la chambre et de sortir. Pendant ce temps-là, elle se tenait au-dessus de Robin, toute prête à lui crever les yeux ou à lui gourmer la tête s'il avait le malheur de se réveiller, pendant que ce pas mystérieux traversait la chambre. Mais quoique son regard fût ardemment fixé sur le dormeur, il ne laissait pas s'échapper non plus celui qui ne dormait pas, et lorsque celui-ci lui glissa sa main dans la sienne
et qu'en dépit de toutes ses précautions, il fit sonner de l'or, l'œil de la vieille pétilla de convoitise comme celui d'un corbeau vorace. Le sombre regard de la fille accompagna le personnage jusqu'à la porte. Elle vit combien sa pâleur et sa démarche précipitée trahissaient toutes les angoisses que lui faisait subir le moindre délai, et comme il brûlait déjà d'être bien loin. Lorsqu'il eut fermé la porte, elle promena ses regards autour de la pièce et les arrêta sur sa mère. La vieille s'avança vers elle, ouvrit sa main pour lui montrer ce qu'il y avait dedans. Puis, la refermant avec effort, dans un mouvement de cupidité ravie, elle dit tout bas « Que va-t-il faire, Alice ?»« Un malheur, » dit la fille. « Un meurtre ?» demanda la vieille. Dans son orgueil blessé, il ne se connaît plus. « Que fera-t-il ? Nous n'en savons rien, ni lui non plus. » Elle avait un regard encore plus étincelant que celui de sa mère, et ses yeux brillèrent d'un feu dévorant, mais sa figure resta pâle et ses lèvres livides. Elles n'en dirent pas davantage. Elles demeurèrent assises, chacune à leur place, la mère s'entretenant avec son argent, la fille avec ses pensées. Leurs regards éclataient au milieu de l'obscurité de la chambre. Robin, endormi, ronflait encore. Seul le perroquet, qu'on avait oublié, était toujours en mouvement. De son bec crochu, il tordait et tirait à lui les barreaux de la cage. Puis il grimpait jusqu'au faîte, rampait à la renverse comme une mouche, la tête en bas, secouant, mordant, agitant les minces barreaux. Il semblait avoir le pressentiment du danger que courait son maître et faire des efforts désespérés pour se frayer un passage au dehors afin d'aller l'avertir.